Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Ali sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu, l'émission qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h avec notre invité du jour, Marie Cousin, membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc le RAP Ski. Elle nous parlera notamment de la pétition lancée par son association le 25 mars dernier contre les écrans numériques publicitaires à Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans Marmite fait son actu, je n'oublie pas vos chroniques préférées, l'actu du cinéma Le Grenier à sel avec Gaëlle, la consommation responsable avec Chloé qui vous parlera des méfaits du plastique sur l'organisme et sur la planète en général. Shaima nous parlera du rôle des députés européens à quelques semaines des élections européennes du 26 mai prochain. Le flash d'actu local avec Julien Mathieu, c'est à 17h30. Il sera notamment question des 30 ans de la librairie Le Pavé du Canal avec une interview du libraire Laurent Garin. Le décryptage média du jour consacré au traitement médiatique de la 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes et surtout un slogan anti-police qui a fait parler dans les médias. Ouais, suspense, ça, on écoute ça tout à l'heure. On ne change pas nos habitudes. On commence cette émission en chanson avec Scaramucci. En concert à la batterie de Guyancourt le 25 mai à 20h30, le titre My Sound Music.
Gangsta no play stocky. Long time we got here and the city we are lucky. My son a champion, we no afraid of nobody. Mr. Chatty Chatty never knows say me got it. No wind run up in a me double mouth shotty. Mama she a ball but the grave dig already. Yeah, this my sound say so you dead and buried. Bust your way top, your blood run like cherry.
I'm
run up your mouth, you think you're bad like we. I make double from the day of my birth. My son a kill sound, let them off of the earth. Them said that them a gangsta, but them no work. For some a go on like y'all when them a wear pay skirt. But the dubs them when we play, my son kill it hurt. And no matter what them say, we a go kill and splurt. That's how we do it, me a tell you killing, that how we work. And they sound disrespect, man, kill them first. What you gonna do now? Put a laugh with people. Not gonna be big like whoa. All over the ocean, you hear me gonna echo. My sound a killer from out of the ghetto. And you're gonna pose up like you are the co. True for your one, boy, you better let go. But your sound no bad like mine. My sound a champion, one of a kind. Kill sound any place and any time. Always on top of the dance all time. My son a run on a ball. Say them hear me son a play and police them can't call. Tell them oh we have the tall up tall. Make them come and search me, put me back against the wall. That I go save them from me, I go kill them all. My son a champion, ready for the war. Them could a come a bus a truck or car. We ready for slew them from far.
I'm a champion. Real team.
kill myself, but they ain't gonna make it. No matter how them try,
no matter how they try,
them just can't take it. Sounds like crying now, but them don't play box with breaking. You want for this to jump down?
You can't diss my sound.
World, we are shaking.
Shine sound.
Scaramucci, je le rappelle, je le répète, pardon, qui seront en concert à la batterie Guyancourt le 25 mai prochain à 20h30. Et vous avez écouté le son My Sound. Le son My Sound. Bon, voilà, pour ceux qui parlent anglais, ils trouveront que c'est assez marrant. Mais bref, si vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas la blague. Bref, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux, les députés européens avec Shaima. Alors Shaima, elle est en stage actuellement avec nous pour 2 mois.
Et oui.
Donc voilà, on te fait travailler. Hein.
Oui, alors, effectivement.
On travaille très dur. Allez, on t'écoute Shaima.
79, c'est le nombre de sièges que la France devra occuper lors des prochaines élections européennes. Chaque eurodéputé sera élu au suffrage universel et siégera au Parlement européen pendant 5 ans. On oublie souvent, mais les députés européens jouent un rôle très important au sein de la communauté européenne, même si le peuple européen néglige souvent les élections européennes. Les députés européens sont des acteurs centraux au pouvoir législatif européen. Il faut savoir que les eurodéputés siègent au Parlement européen au sein duquel ils doivent rejoindre une ou plusieurs des 20 commissions thématiques permanentes chargées d'examiner les textes de loi.
Alors, lors des débats télévisés, on a beaucoup entendu parler d'alliances de groupes politiques au sein de l'Union européenne. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Effectivement, les députés européens doivent appartenir à des partis politiques nationaux et une fois qu'ils sont élus, ils doivent s'associer à des groupes qu'on appelle transnationaux. Par exemple, un eurodéputé socialiste devrait rejoindre un groupe d'eurodéputés qui défend une idéologie de gauche. Mais la particularité de ces groupes transnationaux, c'est qu'ils ne peuvent pas imposer des consignes de vote à leurs députés.
Et comment s'organise leur travail ?
Le Parlement possède un calendrier dans lequel figurent toutes les différentes périodes consacrées aux travaux de nos députés européens. En gros, pour les affaires qui relèvent du législatif, 4 jours consécutifs par mois sont réservés à ce qu'on appelle les sessions plénières. En ce qui concerne les réunions de commissions parlementaires, 4 jours par mois, voire plus, sont réservés pour ces réunions. Concernant l'activité plus politique, une semaine par mois est dédiée au travail en circonscription. Le temps restant est destiné aux réunions des groupes politiques.
Alors, en quoi consistent les 4 événements que tu as cités tout à l'heure, session plénière, commission parlementaire, circonscription, etc.
Alors, pour les sessions plénières, sont publiques et elles ont lieu au sein du Parlement européen à Strasbourg. Les députés se réunissent pour débattre des textes de loi, mais aussi pour voter l'adoption ou le rejet des textes de loi. Les plénières sont aussi l'occasion pour les députés de s'exprimer sur le sujet du jour donné par les présidents des groupes transnationaux.
Et qu'en est-il de la commission parlementaire ?
La commission parlementaire se réunit à Bruxelles 1 à 2 fois par mois. Ça dépend du calendrier parlementaire. Elle a pour mission de décortiquer les textes de loi proposés par la Commission européenne et de les modifier avant de l'envoyer à la plénière. Chacune des 20 commissions permanentes est spécialisée dans un domaine précis. Par exemple, la commission du contrôle budgétaire ou bien la commission de la pêche. Chaque député est dans l'obligation d'être membre d'une des 20 commissions permanentes et doit être suppléant d'une autre.
Et ça sert à quoi, justement, les circonscriptions, là, que tu as citées tout à l'heure ?
Eh bien, le but de la circonscription est de garantir un lien entre les citoyens européens et son Parlement. Donc, les eurodéputés disposent d'une semaine, comme je l'avais dit précédemment, afin de retourner au sein de leur QG pour échanger avec leurs citoyens.
Ok, merci Shaima. Et n'oubliez pas que le vote pour les élections européennes, c'est le 26 mai prochain. D'ailleurs, pour les dom-toms, ce sera un jour avant, c'est le 25 mai. Donc voilà, merci Shaima.
De rien.
Allez, sans transition, il vient d'arriver, il est tout beau, il est tout chaud. Ah, c'est toujours comme ça qu'on le présente. L'actu du ciné, le Grenier à sel.
Tout de suite, l'actualité du cinéma, le Grenier à sel, avec Gaël.
Les auditeurs vont vraiment commencer à se demander pourquoi à chaque fois que Gaël...
Ah
ouais, faut que j'arrête de dire ça. Faut que je trouve un autre lancement.
Ouais
ça va Gaël ?
S'il te plaît,
ouais, oui. S'il te plaît.
On va se faire engueuler encore.
Ouais.
Bonjour Noradine, bonjour
Gaël. Monde. Donc comme chaque semaine, tu nous présentes l'actualité et puis la programmation du cinéma Le Grenier à sel.
Alors le premier truc, le cinéma est ouvert.
Oui,
alors, bizarrement,
malgré les travaux.
Bizarrement, les travaux, ça nous ont mis des barrières devant le cinéma, devant la place du Mai 45, donc la place devant le Grenier à sel.
Ouais.
Mais nous sommes ouverts, donc les spectateurs s'étonnent un petit peu de devoir contourner les barrières ou de trouver un chemin entre les barrières pour venir jusqu'au cinéma. Nous aussi, on s'étonne aussi de pouvoir trouver un petit chemin pour aller jusqu'à notre bureau. Mais en tout cas, sachez-le, c'est ouvert. Bref.
Rappelle-nous justement,
rappelle.
C'est jusqu'à fin juin, c'est ça ?
C'est officiellement jusqu'à fin juin. Évidemment, ce genre de travaux, on n'est pas à l'abri d'une petite prolongation. Parce que vous avez vu la taille des tuyaux, non ? T'as vu la taille des trous qu'il y a dans le
oui,
sol ?
Tout à fait,
voilà.
Oui.
Donc on peut tenir quasiment debout dans les tuyaux qui sont en train d'installer. Donc il y a des trous monstrueux autour, derrière le grenier à sel pour l'instant. Ils ne sont pas encore arrivés jusqu'à nous. Et donc, il y a les travaux toute la journée. Les travaux, ça met du bazar, du bruit, etc. Nous, ça, on ne peut pas se permettre de faire des projections dans ces conditions-là. Donc on est coincé, on ne fait pas de projections en journée tant qu'il y a les travaux. Je découvre en ce moment que les travaux finissent plutôt vers 15h30, 16h. Je me dis, mince, cet après-midi, on a Dumbo, j'aurais bien voulu le passer à 16h, mais non. On ne va pas le faire parce que je ne savais pas que les travaux seraient finis.
C'est régulièrement à cette heure-là que ça finit ou c'est
pour l'instant, ouais. Pour l'instant, c'est régulièrement vers ces heures-là. Mais évidemment, on ne pouvait pas parier dessus au moment où on faisait les horaires, surtout qu'on nous a dit que ça se terminait vers 17h30, 18h. Donc, à partir depuis le 15 avril, nos séances de cinéma ne commencent qu'à partir de 18h en semaine et toute la journée le week-end. Sachant que, prochainement, il y a des jours fériés, donc les jours fériés, il n'y aura pas de travaux.
Ça va être sympa,
donc, on fera des séances. Je vous ai parlé de Dumbo. Et oui, parce qu'on a Dumbo, on commence aujourd'hui Dumbo. C'est pas le Dumbo qu'on connaît classique de Disney en dessin animé. C'est une adaptation de Tim Burton. Tim Burton, on le connaît pour ses films plutôt... j'ai un petit peu mal à trouver le... Vas-y.
Particulier,
tu dis ? Un petit peu gothique, un petit peu romantique, un petit peu horrifique, tout ça.
Et là, c'est complètement autre chose.
Donc là, il a tourné un film en live action, comme on dit maintenant chez Disney, parce qu'ils ont prévu de se refaire tout le catalogue de films d'animation Disney, ils vont nous le faire en film live. Donc on a Aladdin qui arrive bientôt.
Rappelle-nous live action, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'il y a des acteurs en vrai,
ouais.
Il y a des décors en vrai, mais que les personnages un petit peu particuliers, comme Dumbo, ils ne pouvaient pas l'avoir en vrai. Donc
c'est bizarre, il n'y a pas d'être humain qui ressemble à Dumbo. Peut-être pas, peut-être bientôt.
Je ne sais pas quoi répondre. Non, il n'y a pas pour l'instant. Y a pas, le Roi Lion aussi qui va sortir, il n'y a pas beaucoup de lions qui parlent. Donc c'est de l'animation d'image de synthèse. Bon, donc vous connaissez Dumbo, vous connaissez l'histoire. On retrouve Danny DeVito, Colin Farrell, Michael Keaton. Le film a été classé à RSC. Je ne l'ai pas vu et j'ai d'assez bons retours. Mm-hmm. C'est pour les enfants, mais pas que, pour les vieux enfants qui ont vu les films d'animation. C'est nous le conseil à partir de 6 ans. Puisqu'on est dans les suites, dans les remakes, dans les tout ça, il y a Tanguy, le retour. Tanguy, qui était ce jeune homme qui ne voulait pas partir de chez lui, qui habitait toujours chez sa maman Sabine Azéma et son papa André Dussolier. Eh bien, il revient quelques années plus tard. Il avait fini par partir et aller habiter en Chine. Et il revient, il a 44 ans et il vient squatter chez ses parents parce que sa femme l'a quitté. Et il squatte. Voilà.
C'était déjà le cas de toute son.
C'était déjà le cas. Et en fait, il aime ça et il revient. Voilà. Tanguy revient. Nous avons aussi La lutte des classes de Michel Leclerc. Michel Leclerc, on l'avait connu il y a quelques années avec la vie des gens. Le nom des gens, pardon. Tiens, voilà, j'ai un bug. Il y a un film qui s'appelle La vie des gens, qui s'appelle Le nom des gens. Je ne sais plus qui a
donc
fait Michel Leclerc. C'est l'un des deux. Désolé, Michel Leclerc, si tu m'entends. Je suis en direct et je
nous écoute tous les mercredis. Ouais.
On retrouve dans ce film Leïla Bekti et Edouard Baer et Ramzi Bedia. On est en banlieue proche. D'ailleurs, on est à Bagnolier et Sophia et Paul vivent ensemble. Ils ont des enfants. Et il se retrouve confronté à un dilemme de école publique, école privée, eux qui sont plutôt rebelles ou plutôt carrément bobos, ont vraiment envie de rester dans ce quartier populaire où Sophia a grandi. Et en fait, tous les enfants avec qui ils s'entendent, les parents avec qui ils s'entendent, mettent leurs enfants dans le privé. Et c'est une comédie, c'est très drôle, sur un fond social, comme toujours avec Michel Leclerc. Comme il n'y avait pas de séance aujourd'hui, je me le suis regardé à midi, donc je vous le conseille. Je le trouve vraiment super sympa, très drôle, comme bien écrit, avec des personnages qui sont vraiment très efficaces. Donc je vous conseille de venir voir La lutte des classes cette semaine. Et je vous raconterai prochainement d'autres histoires sur la suite de nos projets, de nos réflexions. Et je vais me préparer un petit peu et prochaine fois j'aurai d'autres choses à raconter.
T'as encore deux de billes pour la prochaine fois.
Ouais, voilà.
Donc cinémagreniacel.com si vous souhaitez retrouver toute la programmation de Cinéma Le Grenier à Sel, cinémagreniacel.com. Merci Gaël.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Allez, on passe à l'invité de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Marie Cousin, bonjour.
Bonjour.
Alors, membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire de Saint-Quentin en Yvelines, la pétition lancée par Rap Saint-Quentin en Yvelines, du coup, le 25 mars dernier, contre les écrans numériques publicitaires à Saint-Quentin en Yvelines, c'était à l'occasion de la journée mondiale contre la pub, d'ailleurs, que vous avez fait, que vous avez lancé la pétition. Bientôt 700 signatures, c'était l'objectif.
Un vrai succès.
Ouais. Ouais, un vrai succès. Est-ce que vous pourriez présenter d'abord aux auditrices et aux éditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore l'association RAP, la présenter en quelques mots?
Alors, Résistance à l'agression publicitaire, c'est une association qui a plus de 25 ans, qui a un rayonnement national et même maintenant international, puisqu'on lance des journées de lutte internationale contre la publicité.
Ouais.
Pour ce qui est du cas de Saint-Quentin en Yvelines, on est un groupe actif depuis 6-7 ans. Qui ne fait que grandir parce que les Saint-Quentinois s'intéressent de plus en plus effectivement à leur cadre de vie et à ces panneaux publicitaires qui grandissent et qui augmentent au long des voies de circulation et des axes de circulation fortes sur Saint-Quentin en Yvelines, d'autant plus qu'il est question de la réglementer actuellement sur l'agglomération.
Alors vous avez quelques faits d'armes quand même puisque vous avez réussi à faire retirer des grandes bâches qui étaient mises de façon illégale à Saint-Quentin en Yvelines, je pense au Vélodrome notamment, voilà, d'autres endroits peut-être aussi.
En fait, le cœur de métier des antennes locales de résistance à l'agression publicitaire, où qu'elles soient en France, c'est effectivement de s'établir sur la réglementation qui est déjà en cours, soit nationale, soit locale, puisque c'est des réglementations qui sont pour l'heure communales et qui vont changer dans très peu de temps vers les agglomérations et les métropoles. Donc il y a des textes qui régissent la publicité, les enseignes, les préenseignes, tout ce qui est affilié à de la publicité de façon générale. Et la plupart du temps, les communes qui ont encore le devoir de police ne s'intéressent pas du tout à cette question-là. On en a vu beaucoup pendant la Ryder Cup, par exemple, apparaître le long des haies, sur les ponts, piétons ou autoroutiers. Et tout ça de façon parfois illégale. Donc l'association et son antenne locale sur Saint-Quentin-en-Yvelines s'établit d'abord à faire respecter les réglementations en vigueur et à alerter pour que la réglementation infléchisse vers plus de rigueur au niveau de l'affichage publicitaire parce que ça se démultiplie et les dispositifs aussi publicitaires changent vers du numérique, de l'énergivore et pour nous en tout cas des dispositifs qui sont de plus en plus agressifs aussi.
Alors il y a une vraie mission d'information aussi puisqu'il faut le savoir, par exemple le cas qu'on citait tout à l'heure avec les bâches enlevées du côté du Vélodrome, faut le citoyen lambda il sait peut-être pas quelle taille il faut exactement, et puis c'est sur ça souvent que certains profitent pour mettre des publicités de façon illégale. Alors, pourquoi vous avez fait une pétition spécifique là, sur les écrans numériques le 25 mars dernier ?
Alors, c'est le nouveau joujou des afficheurs et des annonceurs, les écrans numériques ou les écrans vidéo numériques. Il y a plein de noms différents parce que c'est un moyen pour eux, de ce qu'ils disent, de moins se déplacer pour justement changer les messages publicitaires, qui est très, très consommateur. En moyenne, c'est quand même pour un panneau de 2 mètres carrés, il faut le savoir, c'est l'émission énergétique et électrique d'un foyer de 3 à 4 personnes annuellement.
D'accord.
Parce qu'en plus, généralement, comme c'est un nouveau dispositif, du coup, il n'apparaît pas dans les réglementations ni nationales ni locales. Et donc, du coup, ils sont allumés de jour comme de nuit. Et pour nous, c'est un vrai alerte qu'il n'y ait pas de cadre légal là-dessus. Parce qu'on en voit pousser partout. Ça a commencé par le métro, par les transports en commun de façon générale. On commence à en voir aussi dans les gares. Mmh. Et puis, petit à petit, se déplacer dans l'espace public. Et nous, qui nous attachons à lutter contre le système publicitaire et puis ses effets néfastes, on passe d'une image fixe à une image mobile qui va attirer davantage le regard du citoyen qu'on espère le plus éveillé possible. Mmh. Des enfants, et on a beau dire que dans nos foyers, il faut éviter de mettre les enfants devant les écrans. C'est pas le cas, apparemment, dans l'espace public et dans les transports en commun. Donc, c'est malheureux.
Alors, justement, le texte du règlement local de publicité intercommunale, donc le RRPL, qui est voilà, il y a eu des il y a une réunion publique, je crois, qui a été organisée, à laquelle vous avez participé. Vous pourrez nous en dire un mot. Est-ce que il parle de ces écrans numériques nommément, et qu'est-ce qu'il dit globalement sur la législation?
Alors, pour le moment, il n'y a pas d'interdiction ferme à l'ensemble du territoire de ces écrans numériques. C'est pour ça qu'on a lancé aussi cette pétition pour alerter nos élus en pleine rédaction de ce RLPI.
Pour que ce soit nommément cité, ouais.
Totalement.
Marqué, ouais.
Pour le moment, il les refuse dans... Il y a des systèmes de zonage, en fait, dans les RLPI, comme dans le passé, dans les RLP, donc les règlements locaux de publicité. À l'échelle communale, généralement, c'est très schématique, c'est les zones résidentielles et d'un côté les zones d'activité.
D'accord.
Et parfois se rajoute un troisième zonage sur les axes de circulation forte, automobile et ferroviaire. Là, c'est le cas, il y a ces trois zones-là qui existent et pour le moment, les écrans numériques sont bannis des zones résidentielles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On espère que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines va s'y tenir parce que là, il y a des allers-retours vis-à-vis des élus, vis-à-vis des annonceurs, des commerçants et des associations. Donc on espère qu'ils vont s'y tenir, mais pour le reste, sur les axes de circulation forts et les zones d'activité qui souvent sont très très proches des zones résidentielles, il n'y a actuellement pas de réglementation sur ces écrans numériques. Alors il y a une réglementation sur la dimension maximale, mais il n'y a pas d'extinction prévue de ces panneaux numériques. Donc comme je le disais, ni au niveau national ni au niveau local, on va avoir ces écrans allumés constamment de jour comme de nuit. Et pour le moment, les panneaux numériques ou non peuvent aller jusqu'à 10,8 mètres carrés. Donc je peux vous laisser imaginer que quand vous êtes frontalier d'une zone d'activité ou d'un axe de circulation fort, vous allez le voir de votre maison, cet écran numérique.
Alors justement, en parlant de ça, parce que c'est assez marquant, hein. Dans les grandes villes notamment, mais pas que. Il suffit d'aller dans les grandes villes. Je parle de Paris, Lyon, peut-être d'autres grandes villes. Mais même en allant à côté, à Versailles, hein, par exemple, c'est vrai qu'on peut se balader, aller à 2h du matin et voir des enseignes allumées, mais partout.
Oui.
Est-ce qu'il y a une législation sur ça? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est plutôt plutôt des abus? Parce que vous avez fait des actions justement pour éteindre les anciennes qui restaient allumées le soir.
Alors au niveau national, il y a un cadrage de l'extinction de certains dispositifs publicitaires, à savoir les enseignes, et pas du tout par exemple sur le mobilier urbain. Donc, par mobilier urbain, j'entends les sucettes, donc les panneaux les plus basiques qui soient sur un territoire.
Sur les abribus.
Je vais même dire abri voyageur, parce que abribus, c'est une marque déposée, il faut le savoir.
Donc abri voyageur.
Donc en fait, la plupart des dispositifs qui vont accueillir de la publicité ne sont pas concernés déjà par le cadre légal national, qui est d'éteindre entre 1h et 6h du matin.
D'accord.
Les actions que RAP Saint-Quentin et d'autres antennes locales de l'association vont faire, les actions de Rallumons les étoiles, c'est tout simplement déjà pour que les commerces, les enseignes et les publicités qui sont encadrées par cette extinction de 1h à 6h du matin respecte la réglementation. Après, il arrive aussi que dans certains collectifs, on éteigne tout simplement la lumière, puisqu'il y a un petit dispositif qui le permet sans dégrader quoi que ce soit sur le commerce. Il suffit juste de la baisser. C'est le même capteur qui est utilisé pour les pompiers quand ils agissent en cas d'incendie. Donc parfois, on le fait avant, parce que de la même façon, le citoyen, on lui demande d'éteindre la lumière quand il sort de la pièce. Donc on trouve ça logique aussi que les commerçants, quels qu'ils soient, les publicités de façon générale soient éteintes lorsqu'on n'a plus besoin de véhiculer un message.
Alors, on le sait, une des manières pour des associations ou des collectifs d'influer un peu dans la société, c'est de rencontrer des élus essayer de donner d'autres points de vue, essayer de faire infléchir par rapport à ce qu'on croit être mieux pour le public. Est-ce qu'il y a eu des échanges entre l'association RAP Saint-Quentin-en-Yvelines et par exemple le rapporteur du règlement local de publicité intercommunale, c'est le maire donc de Maurepas, qui est Grégory Garestier. Est-ce qu'il y a eu des alertures? Est-ce que vous avez échangé avec lui pour lui dire au niveau des écrans numériques, ça pouvait poser souci, ou sur d'autres problématiques même liées à la publicité? Et quel retour vous avez eu après?
Alors, de façon générale, depuis sa création de Rap Saint-Quentin, effectivement, comme on s'établit à faire déjà respecter la loi en place, communale actuellement, on fait des allers-retours de toute façon avec les services urbanisme et les élus des différentes communes du territoire pour justement leur signaler lorsqu'il y a des publicités illégales et leur demander du coup de les faire enlever puisque c'est à eux de le faire. Mmh. Donc, de façon générale, effectivement, on échange régulièrement avec les communes. Là, dans le cadre du règlement local de publicité intercommunale, la Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est basé sur ce que demande la loi pour justement passer cette réglementation au niveau intercommunal. Donc il y a eu effectivement, comme tu l'as dit Nouradine, des réunions de consultation. Mmh. Il y a d'abord eu des sessions privilégiées entre le cabinet d'études qui s'appelle GoPub et qui accompagne l'agglomération et M. Garestier sur ce projet-là. Monsieur Garestier et ses services à Saint-Quentin qui s'en occupent. Et donc, du coup, ça a été plusieurs petites sessions. Il y a eu une session avec les associations locales. Ouais. Il y a eu avec les commerçants. Il y a eu avec, bien sûr, les afficheurs et les annonceurs. Aussi, on a un droit de regard là-dessus, quoi qu'on en dise. Et il y a eu enfin, le 12 novembre dernier, une réunion de consultation publique. Donc là où tous les usagers et habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines pouvaient s'exprimer librement, sachant qu'étaient déjà présentées les grandes orientations du RLPI à cette occasion-là. Et donc, du coup, ça a permis quand même de faire plusieurs allers-retours et de noter justement les inquiétudes de la population. Les écrans numériques, c'est une chose, effectivement, ça inquiète beaucoup la population à ce niveau-là. Mais les questions de zonage aussi, parce qu'on a été, nous, en tant qu'association, un peu porte-voix de certains concitoyens et qui s'étonnaient que, par exemple, on pouvait trouver des publicités pour de l'alcool, des fast-food à proximité des établissements qui accueillent du jeune public, que ce soit scolaire ou périscolaire. Et ils nous ont interrogés un petit peu pour savoir si on ne pouvait pas zoner ces zones-là, puisqu'on ne peut pas contrôler le message publicitaire dans un dispositif publicitaire. On peut tout simplement exclure la publicité d'une zone. Et bien sûr qu'on peut influer là-dessus. Et ça a fait partie aussi, du coup, des demandes des habitants et des habitantes de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Et ça, on le saura quand, justement, si ça a été pris en compte ?
Alors là, actuellement, de ce qu'on sait, c'est que suite à ces consultations, il y a tous les éléments qui ont été relevés par la population, par les associations, par les afficheurs, ont été pris en compte par M. Garestier et le cabinet d'études. Il y a encore des allers-retours entre les différentes communes et les élus qui statueront du coup sur le projet définitif jusqu'en mai, de ce qu'on nous a dit là. Donc le cabinet d'études et M. Garestier vont voir les différents élus pour revoir ensemble les zonages, les différentes règles, puisque ce seront, encore une fois, même si ça passe à un règlement intercommunal, ce sera encore aux communes d'agir sur le devoir de police, sur encadrer cette réglementation intercommunale.
Donc, Saint-Quentin-en-Yvelines peut voter un règlement et puis ne pas, en fait, vérifier, en tout cas, si ça applique et ce sera aux communes d'agir.
Totalement. Et en termes de fiscalité, c'est pareil, parce qu'il y a des taxes sur l'affichage publicitaire extérieur. Et donc, du coup, ce sont des contrats privés entre les communes et les annonceurs et les afficheurs. Et donc, c'est logique que les élus et les communes soient directement actrice de ce projet-là, de l'écriture de ce projet-là, puisque demain, ça va être à elle de faire respecter la loi et, en plus, de s'assurer que le contrat passé avec les annonceurs et les afficheurs correspond aux règles de l'intercommunalité.
Marie Cousin, membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous restez avec nous. 17h30, c'est l'heure du Flash Actu de Julien Mathieu.
Saint-Quentin-en-Yvelines et l'agence départementale d'insertion Activity ont signé ensemble une convention d'adhésion. L'objectif, améliorer les politiques d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Alors pour les demandeurs d'emploi, il s'agira d'aide à la mobilité, à la formation, à la remise à niveau, mais aussi à la garde d'enfants. Et côté employeur, des opérations comme des job dating, des informations collectives ou des salons tels que celui justement du ski emploi en piste, eh bien seront organisés tout au long de l'année. Selon Catherine Arénoux, présidente d'Activity, Saint-Quentin-en-Yvelines est une locomotive, je cite, de l'économie yvelinoise qui va donner une dynamique nouvelle pour la lutte contre le chômage dans les Yvelines. Il est désormais possible de louer ou d'acheter des œuvres d'art à la Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la seule artothèque universitaire en France. Elle est le fruit de l'association étudiante Art au Cher, fondée en 2017. Le but est de diffuser l'art contemporain et local auprès des populations locales. Je vous rassure, l'artothèque n'est pas exclusivement réservée aux étudiants. Alors côté tarif, l'adhésion coûte 5€ puis 10€ pour un prêt de 2 mois. Et lorsqu'une œuvre est louée, l'association perçoit 70% du prix de location et l'artiste 30%. En revanche, lorsque l'œuvre est vendue, c'est l'inverse, l'artiste touche 70%. 20 pommiers ont été plantés dans la forêt de Sainte-Apolline à Plaisir. Le but de ce verger est d'abord pédagogique et directement tourné vers les scolaires qui seront bien sûr tenus au courant et qui viendront directement suivre l'évolution de ce verger. Le deuxième aspect, quant à lui, est écologique puisque tout un nouvel écosystème devrait se créer autour de ce verger dans les années à venir. Et puis à Guyancourt, vous pourrez apprendre à réparer vous-même vos appareils. Il s'agit là d'un atelier Repair Café en partenariat avec Lab Transition. Ce sera le samedi 4 mai à la maison de quartier Auguste Renoir de 14h à 17h. Merci à tous.
Marie Cousin, toujours avec nous, membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire, antenne de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, on parlait justement tout à l'heure de la pétition lancée par Rap Saint-Quentin en Yvelines le 25 mars dernier contre les écrans numériques publicitaires à Saint-Quentin en Yvelines. Alors, il y a eu un petit retour depuis. Est-ce que vous l'avez présenté déjà, cette pétition, ou est-ce que vous attendez d'avoir les 700 signatures pour ensuite aller la poser sur le bureau de...
Alors, comme on voit qu'il y a énormément de... On ne s'attendait pas à un suffrage aussi rapide, en tout cas, même si, effectivement, en lançant le 25 mars, lors de la journée internationale de lutte contre la publicité, on s'attendait quand même à un petit écho. Médiatiquement, tant au niveau local qu'ailleurs, je crois que ça n'a pas été très, très couvert. Donc, l'objectif, c'est aussi d'en faire parler à l'occasion de nos différentes actions, de nos différentes rencontres avec les élus locaux, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'élus locaux qui vont soutenir cette pétition. On en a déjà quelques-uns qui ont les mêmes inquiétudes que nous et qui donc vont la promouvoir aussi. Donc, c'est vrai que l'objectif de 700 signatures est un premier objectif, mais je pense qu'on va le passer au-delà. Et c'était inespéré en un mois d'avoir autant de suffrages. Donc pour le moment, on laisse la pétition continuer. On sait que de toute façon, les allers-retours, comme je le disais tout à l'heure, entre les élus locaux et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines vont avoir lieu jusqu'en mai. Je pense qu'il y aura plus un dépôt de cette pétition officielle, en tout cas auprès de M. Garestier et de ses services, à ce moment-là. Puisque ensuite, on va passer à un autre niveau de la réglementation qui est l'enquête publique.
Alors justement, parce que j'ai appelé évidemment Grégory Garestier, en tout cas ses services, pour essayer de l'avoir pour cette émission. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, mais voilà, si j'ai une réponse dans les jours à venir, ben, on le fera venir également dans les studios pour avoir son regard sur ce sujet. Ben justement, vous parliez tout à l'heure de la presse locale qui n'a pas beaucoup repris la pétition et le lancement de cette pétition contre les écrans numériques à Saint-Quentin en Yvelines. Moi, j'ai un peu suivi justement en février quand il y a eu plusieurs sujets sur notamment le règlement local de publicité intercommunale et les échanges qu'il y avait eu avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et je suis tombé sur quelques chiffres. Alors, je vous en donne quelques-uns, Marie, hein, vous allez me dire. Et j'ai entendu, et dans Le Parisien, me semble-t-il, et sur TV78, alors 495 panneaux publicitaires qui seraient concernés par ce règlement. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, ça va, 495...
pour 400 ouais, voilà, c'est panneaux.
Je me suis dit, ah bon, il n'y a que ça. Bon, ça va, c'est pas beaucoup, beaucoup. Surtout qu'on est 12 villes. 12 villes, allez, si on fait un calcul rapide, ça fait à peu près une petite cinquantaine par ville. Mm-hmm. Ben voilà, évidemment, vous allez me répondre.
Bah oui, non mais je pense que tout le monde peut se poser la question de est-ce qu'il y a seulement
je vous pose des questions,
publicités
que je me suis posé.
Est-ce qu'il y a que 50 publicités dans chacune de nos villes? Bon, les clés sous bois, je peux l'imaginer éventuellement. Mmh. Mais en fait, donc c'est un chiffre qui vient du diagnostic préalable à la réécriture du RLPI. Mmh. Donc du cabinet d'études qui s'est amusé quand même à faire du terrain, à noter ça. Mais par publicité, en fait, on n'a pas la même définition. Publicité, ah oui. Ça ne concerne une fois de plus pas le mobilier urbain, parce que en termes de définition, un mobilier urbain doit accueillir de façon accessoire la publicité. Et donc du coup, les abris
par accessoire, vous entendez, c'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire.
Ouais. C'est possible
que,
de.
Ouais. Bah, on va tous le constater. Généralement, quand il y en a pas deux, il y en a au moins une de publicité commerciale. Désolé pour le grenier à sel. On met pas encore totalement les programmations dans les abris voyageurs, mais effectivement, c'est plus de la publicité commerciale, mais ce n'est pas considéré comme une publicité ou un dispositif publicitaire, puisque c'est accessoire, les abris voyageurs, les sucettes et plein d'autres dispositifs. Donc finalement, le chiffre de 495 publicités diagnostiquées et repérées sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il n'est pas très juste, parce que si on s'établit sur la réglementation de la publicité, ça concerne et les enseignes, et les pré-enseignes, et les publicités, et le mobilier urbain, toutes ces choses-là.
Mais tout de suite, ça fait des milliers, là.
Voilà.
Ouais, finalement.
Voilà.
Contre 495. Alors, il y a d'autres choses également qu'on a vues qui sont censées être prises par le RLPI, avec l'extinction, par exemple, des affichages lumineux entre 22h et 6h du matin. Plutôt une bonne chose, ça ?
Alors, une bonne chose dans un sens, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le cadre légal national, c'est 1h, 6h du matin pour l'extinction. Autre que quand il y a une activité qui se présente dans la nuit, c'est 1 heure après la fermeture, 1 heure avant la réouverture.
Donc là, c'est un peu plus large.
Donc là, c'est un peu plus large, 22h, 6h. Effectivement, on a accueilli plutôt cette nouvelle assez favorablement au sein de RAP Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais une fois de plus, ça ne cadre pas dans le mobilier urbain, donc dans la majorité des dispositifs qui accueillent de la publicité. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas d'éteindre les abris voyageurs, d'autant plus quand on en a l'utilisation de nuit. Il faut séparer la lumière de l'abri voyageur de l'allumage de la publicité, de la vitrine et du dispositif publicitaire, qui sont deux choses séparées, ça n'a pas de lien. Et donc on peut éteindre l'un et laisser l'autre allumé aussi.
Alors, bon, il y a plein de choses hein, sur lesquelles dont on pourrait parler. Les publicités numériques, est-ce qu'elles seront éteintes entre 22h et 6h du matin ? Ça, c'est pour les publicités numériques. Le zonage dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on exclut voilà, dans quelle zone on peut mettre de la publicité ou pas ? Voilà, donc il y a plein de choses. Où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de RAP Saint-Quentin-en-Yvelines si on veut en savoir plus, soit sur le RLP ou soit sur les actions que vous faites, parce que vous faites beaucoup d'actions. Vous n'êtes pas uniquement sur le règlement local de.
C'est ça, on donne les outils aux gens pour se prémunir de la publicité dans toutes les sphères, pas que publiques d'ailleurs, aussi dans nos sphères privées, sur notre boîte aux lettres, on peut coller des petits stop-pubs, des choses comme ça. Donc de façon générale, retrouver tous les renseignements de l'association, c'est simplement sur le site internet antipub.org, il n'y a pas plus simple. Et pour ce qui est du groupe local de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, donc sky@antipub.org. Et sur le site internet justement de Résistance à l'agression publicitaire, vous y verrez et la pétition, donc contre les écrans numériques. L'adresse globale, c'est pétition.antipub.org/SQY comme Sky.
Ah, elle les connaît par cœur.
Voilà. Et on y a également sur le site d'antipub.org, bien sûr, et mis un compte-rendu de la réunion publique du 12 novembre, parce qu'on a été surpris. La communauté d'agglomération n'a pas fait de réelle restitution de ce qui s'était dit. Nous a semblé important aussi d'expliquer ce qui s'était dit,
passé, ouais.
Parce que tout le monde n'a pas pu venir aussi à cette réunion publique et cette seule réunion publique. On y publie aussi sur le site antipub.org tout un dossier de préconisation qui reprend point par point ce qui, à notre sens, manque dans le RLPI. On ne parle pas du tout de publicité, par exemple, au sol ou sonore. Dans les galeries marchandes, c'est ce qui arrive fréquemment. On réexplique ces choses sur le zonage. Ça a été porté et par Résistance à l'agression publicitaire et par une dizaine d'associations locales sous l'effigie d'un joli collectif qui s'appelle Champs Libres.
En tout cas, merci Marie d'être venue au micro de Marmite pour nous parler de tout ça. Vous restez avec nous.
Ouais.
Peut-être un sujet qui va vous intéresser. On va parler des gilets jaunes et du traitement médiatique. Bah, de ce qui s'est passé un petit peu ce week-end, jingle.
tout de suite le décryptage
média.
C'est le décryptage
média.
Les analyses sont en cours.
Décryptage média.
La chronique de
nous. Radine Pagne.
J'adore ce générique signé Frédéric Vignot. Le mouvement des Gilets jaunes, vous l'aurez remarqué, se poursuit et après un énième week-end de mobilisation un peu partout en France avec des chiffres de mobilisation toujours difficiles à connaître. Un peu moins de 30 000 manifestants pour la police contre plus de 100 000 pour les collectifs de Gilets jaunes. Alors qui dit vrai ? Bon, ça mériterait un décryptage complet sur le sujet. Bref. Mais non, chères auditrices, chers auditeurs, ce qui a retenu l'attention des grands, avec des guillemets médias et des éditorialistes de tout poil, c'est un slogan entendu à Paris ce samedi. À Paris, des Gilets jaunes ont scandé le slogan repris par tous les médias. Suicidez-vous la police. Voilà, suicidez-vous. Bon, ça fait sourire ici, voilà. Peut-être que c'était de l'humour potache, mais je ne pense pas que c'était le cas. En tout cas, je vous laisse justement écouter la réaction des grands médias. Quand je parle des grands médias, nous ne sommes pas un média, hein, nous sommes vraiment le fond de la cuvette médiatique. Hein. Nous ne sommes pas considérés comme un média. Mais les vrais médias, voilà ce qu'ils ont dit sur cette affaire.
C'est l'une des scènes qui a choqué hier en marge du 23e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Des manifestants ont crié « Suicidez-vous » aux forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte.
Le slogan qui scandalise.
Suicidez-vous.
Suicidez-vous. Suicidez-vous.
Alors que la profession est effectivement touchée par une forte augmentation des suicides depuis janvier dernier.
Suicidez-vous. Quand vous entendez cela, vous, qu'est-ce que cela suscite ? Pourquoi cette haine ? Comment elle peut s'exprimer encore comme cela aujourd'hui ?
Est-ce que ce sont des slogans et des inscriptions qui font peur ?
Cette phrase, suicidez-vous, ce contexte, jusqu'où on va aller, Christophe ?
Vous condamnez, Laurent Jacobelli ?
C'est une évidence.
Vous condamnez, Julien Évidemment.
Je vous pose la question, vous l'avez déjà dit, est-ce que vous condamnez ceux qui ont scandé, suicidez-vous ? Oui ou non ?
Ah, il fait flipper Jacques Bourdin. Est-ce que vous condamnez les crimes contre... Voilà, donc dans un contexte... Faut que j'arrête de m'énerver quand je fais le décryptage média, donc je vais rester calme. Voilà. Dans un contexte d'augmentation du... Ah, je précise d'ailleurs que je me suis appuyé, journaliste quand même, faut citer ses sources, sur notamment un montage que vous pouvez retrouver sur le site Arrêt sur Image. Voilà, qui fait un excellent travail sur ces questions. Dans un contexte donc d'augmentation du nombre de suicides dans la police, il y a 28 suicides depuis le mois de janvier dans la police. Mais bon, c'est loin d'une autre profession qui détient un triste record, les agriculteurs, avec 156 suicides par an en moyenne, mais dont on parle un peu moins dans les médias. Je ferme la parenthèse. Donc dans ce contexte, les éditorialistes y ont vu une ligne rouge, donc de dire aux policiers « suicidez-vous », c'est une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et une véritable insulte indigne contre les forces de l'ordre. Extrait.
On a franchi un cap là.
Oui, c'est un degré de plus hein, dans la haine qui est en train de grever, de complètement gangréner ce mouvement des Gilets jaunes.
La question qui se pose est de savoir quelle sera la prochaine étape, l'appel au meurtre.
On franchit des bornes quand même.
Oui, voilà.
On est passé en quelques décennies du mort aux vaches ou du CRSSS à suicidez-vous.
C'est-à-dire que même la guerre la plus atroce n'oblige pas à entendre un tel slogan. Et je pèse mes mots.
Charlotte a parlé de recul de civilisation, je suis assez d'accord avec ça.
Et quel niveau d'inhumanité, quel niveau de cruauté il faut avoir en soi pour être animé d'un sentiment qui vous pousse à dire ce genre de choses.
Même la guerre la plus atroce n'autorise pas à dire ça. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui a débarqué avec un lance-roquette et qui a tué 10 000 flics, voilà, comme ça, pof, et puis que c'est la réaction. Même la guerre, alors celle qui dit ça, c'est Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, qui apparemment ne sait pas ce que c'est la guerre. Je ferme la parenthèse. Et ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas la première fois que ces slogans ils sont proférés dans des manifestations. Déjà, c'était le cas dans la loi Travail, donc sous François Hollande, avec des slogans du style « flic suicidé à moitié pardonné » ou « mort aux flics » ou « les flics fascistes » ou je ne sais quoi. Et peut-être, dans une moindre mesure, tout le monde déteste la police qui est repris souvent pendant des manifestations. Alors pourquoi cette surréaction sur ce slogan, sur ces paroles qui ont été prononcées par quelques gilets jaunes? Alors, cette surréaction, parce qu'évidemment, il faut toujours monter, c'est comme au théâtre, la catharsis, on y va doucement. Là, je vous mets un petit truc, d'abord, c'est mignon, après c'est un peu moins mignon, et après c'est le top. Et là, le top, il arrive sur CNews, dans l'heure des pros, mardi matin, Gérard Leclerc, Gérard Leclerc qui déclare, en parlant des personnes qui ont déclaré ça, on écoute Gérard Leclerc.
C'est des lâches. Et tous ces gens-là, ce sont les héritiers de ceux qui, pendant la guerre, envoyaient des dénonciations à la commande en tour contre les juifs ou contre les résistants. C'est la même démarche.
Ça a atteint un point absolument insupportable. Ce mot d'ordre, suicidez-vous, c'est abject.
Évidemment, j'ai oublié qu'il y avait BHL. Mais évidemment, BHL, mon philosophe préféré, à chaque fois qu'il y a une embrouille, il est dans l'affaire. Voilà, donc là, il vient lui dire que c'est indigne. C'est son mot préféré. C'est indigne, etc. Vous vous rendez compte, c'est le mot d'ordre. C'est un peu une escroquerie intellectuelle de dire que c'est un mot d'ordre, alors que c'est peut-être 50 personnes qui ont crié ça dans une manifestation. C'est le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a un responsable en chef. Il y a un dieu des Gilets jaunes qui a dit « Bon, les gars, à la manifestation, là, ce week-end, dès que vous voyez des flics, vous leur dites « suicidez-vous ». Et vous allez voir, ça va faire un truc. Et puis, évidemment, Gérard Leclerc qui nous dit quand même, voilà, c'est le pont pour on se dit que quand même, amalgamer des gens qui crient, quoi qu'on en pense, hein, on peut le critiquer, on peut le condamner, etc. Mais amalgamer ces gens-là et dire que ces policiers, ces gens qui ont crié ça, ce sont les descendants des collabos de 39-45 hein, qui ont écrit des petits trucs. « Tiens, il y a un juif dans mon placard. » Voilà, c'est pareil. Tiens, ah, lui, c'est un résistant, il a distribué des tracts, voilà, hop, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, c'est un peu fort de café. Bon, alors, évidemment, à chaque fois qu'il y a un truc, hein, voilà, il y a des gens qui crient quelque chose dans une manifestation, bah, il faut désigner les méchants. Bah, c'est qui les méchants de l'histoire ? Est-ce que c'est les Black Blocs ? Ou est-ce que c'est les Gilets jaunes ? Ou est-ce que c'est les Black Blocs ? Ou est-ce que c'est les Gilets jaunes ? Ou est-ce que c'est les Black Blocs et les Gilets jaunes ? Ou est-ce que c'est les Gilets jaunes et les Black Blocs ? Élément de réponse toujours sur CNews, LCI et BFM TV.
Ceux qui sont sur le terrain le samedi sont pour détruire, disons-le, le modèle capitaliste existant.
Je crois qu'il ne faut quand même pas sous-estimer l'infiltration des militants d'ultra-gauche parmi les Gilets jaunes. Il y avait un très bon article dans le Figaro cette semaine.
De la part de tous les témoins, il y a aussi des Gilets jaunes parmi... Enfin, ce sont des ultra-jaunes, ce sont des jaunes qui se sont radicalisés.
Ce sont des zadistes qui seront là maintenant tous les samedis. Comme ils ont été là pendant 5 ans à Notre-Dame-des-Landes, vous allez les avoir, les profils sont différents.
Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est plus compliqué que ça.
Sans doute, mais en tout cas, vous allez l'avoir pendant un moment.
Il faut revenir.
Parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais vous allez les avoir pendant un moment. Et les gens en ont juste, notamment à Paris, les gens n'ont, mais...
C'est affreux.
Les gens, ils partent de Paris, quoi.
Mince, on peut plus aller au McDo tranquille. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, là, c'est clair, la distance que pouvaient prendre certains confrères, certaines consoeurs à distinguer bien entre les gilets jaunes, les casseurs, d'éventuelles infiltrations de je ne sais quel mouvement. Voilà, là, c'est bon, ça a sauté, ça. Hein, c'est fini. Maintenant, les gilets jaunes se sont clairement radicalisés. Avant, on essayait toujours, si vous pouvez regarder les dernières informations, on essayait toujours de dire, mais bon, attention, il y a quand même des gilets jaunes sincères. Modérés, c'est comme dans l'extrémisme religieux. Voilà, il y a les musulmans modérés. Maintenant, il y a les gilets jaunes modérés qui, eux, ils font rien. Ben maintenant, non, c'est fini. Il n'y a plus de modérés. Tout le monde est radicalisé et les gilets jaunes sont radicalisés. Tout le monde est mélangé. Et comme ils critiquent pas et qu'ils dénoncent pas toutes les violences qui ont lieu, ben voilà, maintenant, ils font partie tous de la même clique. Alors, évidemment, après nous avoir dit ce qu'il fallait retenir de ce 23e week-end de mobilisation des gilets jaunes, moi, je croyais que. En regardant la télé, tout ça, je me suis dit, c'est ce qui s'est passé en fait samedi. En fait, la manifestation, elle a commencé à 10h. Il y a 50 personnes qui ont crié « Suicidez-vous ». À 10h05, c'est fini, tout le monde est rentré. Et du coup, c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà, et ben, il s'est passé plein de trucs à côté. Bon, évidemment, après cet événement, il faut bien que à la télé, ils nous disent bah, « Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» Parce qu'il y a des gens qui ont crié « Suicidez-vous », donc il faut réagir là. Hein, faut faire quelque chose. Et là, qui est-ce qui va nous dire ça ? Bah, c'est David Pujadas qui va poser la vraie question, les bonnes questions sur LCI. Parce que David Pujadas, il est bien.
Du coup, on enchaîne avec cette question. Qui peut dire stop ? Qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas encore ce rituel des samedis avec la violence qui se répète pendant des mois et des mois ? Est-ce que c'est le gouvernement donc qui devrait interdire toutes les manifestations ? Est-ce que ce sont les médias ?
Ces gens-là savent qu'on va en parler. Et on n'a toujours pas résolu ce problème. Donc, et moi le premier, puisque j'en parle...
Alors, j'ai adoré. Alors, d'abord, je vais revenir sur Pujadas, mais d'abord Pascal Praud. Pascal Praud, c'est très intéressant, parce que son émission, l'heure des pros, sur CNews, tous les matins, eh ben, il réagissait dans son édito à un tag sur une mairie, dans une ville, je ne sais plus, en Bretagne, je ne sais plus où, qui disait « Flic, suicidez-vous » avec quelques petits signes anarchistes. Voilà. Du coup, c'était un tag qui a été retrouvé et du coup, il réagissait ça. Et du coup, il posait une excellente question. C'est le seul truc qui est intéressant dans l'émission. Il posait une excellente question en disant, mais est-ce qu'on doit parler de ça? Parce qu'on ne sait pas qui l'a fait, on ne sait même pas si c'est un anarchiste, on ne sait pas. Et ça rejoint exactement ce qu'on disait la semaine prochaine dans le décryptage média. Est-ce qu'on est obligé de réagir à n'importe quel truc qu'un n'importe qui va faire? Voilà, quelqu'un, moi je marque, j'aime pas les homosexuels qui mangent du miel. Voilà, je marque ça sur un truc, n'importe où à Paris. Et puis on va mettre la focale dessus pendant 2 jours. Pour dire voilà, montée de l'homophobie, etc., etc., juste par rapport à un truc bien précis. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler de l'homophobie, soyons clairs, mais c'est sur des phénomènes à chaque fois isolés par rapport à une idéologie qu'on est en train de défendre, en disant qu'il faut quand même un retour à l'ordre. Voilà. Et donc, ce petit tag, comme sur Twitter, quelqu'un qui va tweeter n'importe quoi sur Twitter, maintenant ça va faire la une de plein de journaux. Alors, pour conclure, du coup, évidemment notre ami David Pujadat, bah, qu'est-ce qu'il dit, les questions, en fait les questions ça trompe pas, hein. Alors il faut dire stop maintenant, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de, faut empêcher tout le monde de manifester, voilà, c'est ça qu'il faut faire, fini, on manifeste plus, terminé, jusqu'à ce que les gens reviennent à leur voilà, à la raison, quoi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici parce que non, je vais quand même dire une dernière chose, parce qu'il s'est passé quelque chose pendant ces manifestations, parce que avant ce slogan de suicidez-vous, eh ben le premier slogan qui a été dit pendant toute la manifestation, toute la durée de la manifestation, eh ben c'est plusieurs gilets jaunes. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ça sur Internet. Vous pouvez, y a plein de vidéos, même des quelques médias qui l'ont repris. Eh ben c'est ne vous suicidez pas, mais rejoignez-nous. Donc ça a été dit en début de cortège. Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous. Certes, il y a certaines personnes qui pourraient me dire bon, c'est ils sont en train de se moquer des policiers, c'est ironique, quoi. Mais en tout cas, ironique ou pas, c'est ce qu'ils ont dit, ne vous suicidez pas. Et d'ailleurs, allez lire le petit article sur Arrêt sur Image qui montre comment, au fur et à mesure de la dégradation des policiers qui jetaient de lacrymogène et tout ça, les slogans, ils ont changé, bizarrement. Alors qu'au début, c'était plutôt bon enfant et qu'il y avait quelque chose de plutôt positif. Mais c'est pas ça qui a été retenu par mes confrères et mes consoeurs. Non, ce qui a été retenu, c'est que une ligne rouge avait été franchie et que quand même maintenant, il est temps d'arrêter. Hein. Fini, hein. Les gilets jaunes, là, vous rentrez chez vous, c'est terminé. On siffle la fin de la récréation. On est en retard, donc je ne vous fais pas réagir. Parce que d'habitude, là, je sens que vous trépignez, vous avez envie de réagir. On va se calmer. On va aller à la librairie du Canal. On va aller écouter Laurent Garin, qui nous a reçu pour une interview. Parce que quand même, la librairie du Canal fête ses 30 ans. Donc, on écoute Laurent Garin.
Donc, c'est une librairie maintenant, c'est un beau bateau qui a 30 ans, là, qui fête là, au mois d'avril 2019, ses 30 ans. Donc, qui est apparu ici en même temps que le centre commercial à l'époque, qui s'est développé aussi en même temps que la ville. Alors il y a eu plusieurs tranches, jusqu'en 2013 il y avait 450 m², aujourd'hui il y a 750 m². Là il y a 15 libraires à la librairie. On est donc une librairie indépendante, on vient sélectionner, là on vient justement de faire l'inventaire, donc il y a 45 000 livres qu'on a tous sélectionnés les uns après les autres. Donc c'est un vrai choix de libraire que de proposer les livres qu'on a dans la librairie. On n'a pas d'imposition. Voilà, on reste indépendant donc sur notre sélection, sur nos choix, sur nos invités et sur nos prises de position, parce qu'on arrive aussi des fois à prendre des positions. Et on arrive comme ça à emmener les gens par la main et avoir des vrais échanges avec les gens. Donc voilà, donc ça fait 30 ans que la librairie accompagne la ville nouvelle, enfin la ville nouvelle, l'agglomération, dans sa culture. Voilà. Avec tous ces acteurs, que ce soit les clients, les institutions, tout le monde.
Alors l'anniversaire, ça se fête. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ça ne va pas être forcément une journée, mais il y a plein d'actions qui sont à venir, hein, qui sont prévues.
Ouais, c'est ça. Alors l'anniversaire, nous, on a décidé que c'était une année complète. Donc voilà, c'est comme ça. Pendant un an, on fait la fête. On a 365 jours pour faire plein de choses. Donc on ne va pas faire que du livre. On a dit aussi qu'il fallait qu'on s'ouvre un peu. Donc on va recevoir une chorale qui va venir faire deux sets dans la librairie. On va recevoir une scène de hip-hop avec une troupe du coin. On va recevoir forcément des éditeurs qui vont venir parler de leur métier d'éditeur. Qu'est-ce qu'un éditeur aujourd'hui? On va inviter aussi forcément des auteurs de reconnaissance nationale, mais aussi des auteurs locaux, ce qu'on fait habituellement. Mais là, voilà, on va mettre ça aussi en exergue. Voilà, on va se donner vraiment une année pour prendre le temps de fêter ça de façon assez simple, mais voilà, avec nos envies à nous aussi. Voilà.
Alors le prochain rendez-vous c'est demain.
C'est ça.
Du coup là c'est trop tard. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à venir pour les autres dates là?
Alors le prochain gros truc, normalement on va couper une bonne partie de la librairie pour une scène hip-hop. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Et ça, c'est quand ?
Et ça, ce serait, on y travaille encore. Je pense qu'à la rentrée ou peut-être fin d'année 2019. Mais voilà, ça, le gros événement, ça va être celui-là.
C'est assez original, quand même.
Oui, mais ce sera librairie fermée cette fois-ci. Ouais. Donc on va fermer la librairie, on va faire une scène et on va changer le lieu parce que je pense que le lieu est aussi sympa, quoi. Et je pense qu'on peut faire plein de choses dans ce lieu, autre chose que de la vente de livres. Je pense qu'il faut que ça devienne aussi un autre point de ralliement des gens qui ont envie un peu de bouger sur l'agglo. Et on va commencer par ça, on va amorcer ce projet-là et ouvrir la porte par ce biais-là. Parce que j'ai très envie aussi de le faire avec Olaf, qui est
qui est un chorégraphe,
c'est ça, du coin. Et donc on avait envie de monter ce projet ensemble, et donc j'ai dit bienvenue Olaf à la maison. Et alors rien n'est vraiment pour le moment figé. Je sais que là on a pas mal d'auteurs qui vont venir jusqu'à cet été. À la rentrée, on travaille encore avec des maisons d'édition, donc je sais que Gallimard on va faire un projet commun avec Gallimard. On va aussi travailler avec Flammarion. Donc on a plusieurs maisons d'édition avec lesquelles on aime bien travailler tout au long de l'année. Et là, on va monter donc des partenariats sur les 30 ans. On va faire aussi autre chose, on va faire un petit catalogue où j'ai demandé à toutes les libraires actuelles et passées de sortir deux bouquins qui les ont marqués, qui ont un peu changé leur vie. Et on va faire un catalogue, un joli livre qu'on offrira à nos clients, où on aura justement toutes les libraires et les libraires avec leurs deux bouquins à conserver. Voilà.
Vous avez pris quand déjà la gestion du pavé du canal ?
Alors moi, ça fait 5 ans que je suis là maintenant. Voilà. Après une reconversion et une crise de la quarantaine, de 15 ans de passé dans la fonction publique, j'ai souhaité faire autre chose. Et voilà, maintenant, ça fait 5 ans que je suis là. Ouais.
Alors vous n'étiez pas forcément spécialiste du livre. Vous avez peut-être fait une idée de ce que c'était bosser en tant que libraire, de gérer une équipe. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Après 5 ans, là, on peut faire un petit bilan ou pas ? Est-ce que vous attendiez à cette vie de libraire ? Ou est-ce que c'est plus compliqué que prévu?
Non, c'est super simple la vie de libraire. Non, je blague.
surtout dans un contexte où on sait que de plus en plus, on va les citer, Amazon par exemple, écrase énormément de librairies avec des pratiques non concurrentielles. Ils écrasent la concurrence. Donc comment on survit quand on est une librairie?
Alors c'est pas qu'on survit, c'est qu'on vit à côté en fait, c'est ça quoi. On n'est pas dans un mode de survie, on veut vraiment faire d'autres choses et emmener les gens à faire des pas de côté. Alors donc non, au bout de 5 ans, j'ai pas de regrets quoi. Vraiment, je m'éclate toujours, je suis très bien là à ma place. Non, pas de remords ni de regrets, faut surtout pas en avoir. Donc il faut continuer d'avancer et je pense qu'on arrive à proposer autre chose qu'Amazon, autre chose que les grandes chaînes aussi de culture. Et je pense qu'on a tous notre place quoi. Donc c'est sûr qu'il faut être conscient de cette concurrence qui est quand même bien présente, mais je pense qu'il faut proposer d'autres projets aux gens, qu'on les fasse emmener vers autre chose, et je pense qu'on a tout à fait notre place nous ici quoi. Vraiment.
Alors justement, c'est l'humain qui est le plus important ici, parce que la différence, sur Amazon, c'est sûr qu'on parle à personne, on n'a pas de conseils.
Mais non, c'est ça, donc c'est pas des algorithmes qui vont choisir votre livre, en fait c'est des gens, des vrais gens. Et ce qui est, en fait, ça fait que 5 ans que je le fais, mais en fait, la plus grosse part en fait dans ce travail, c'est l'échange qu'on peut avoir avec les gens, parce que c'est énorme en fait. Donc nous, c'est vrai qu'on peut donner des conseils, mais on en prend tellement. Et voilà, c'est cet échange-là qui nous fait, nous aussi, avancer, quoi. Donc il n'y a pas que les lecteurs qui viennent en face de nous, il y a aussi les libraires qui avancent en même temps. C'est vraiment de façon conjointe. Et voilà, c'est ce bel échange que j'apprécie le plus, en fait, vraiment dans mon métier.
Voilà, donc merci à Laurent Garin. Si vous souhaitez retrouver l'actualité du pavé du canal, vous tapez pavé.fr, donc pavé.fr. Voilà, il y aura toute l'actu de la librairie. On est un petit peu en retard, donc on ne pourra pas écouter Chloé. Vous pourrez trouver sa chronique sur le plastique et ses conséquences sur l'organisme et notamment sur la planète sur Internet, donc sur notre podcast www.marmitefm.canalblog.com. C'est la fin de cette émission. Merci à Julien, à la technique. Je vous laisse avec Jean-François et l'émission Le Temps de faire un nid à l'affaire. Ce soir, l'Antisèche, c'est le prochain direct à 20h avec Julien Denervaux. Donc, une bonne tranche d'humour de 20h à 21h en direct. Bonne suite de programme sur Marmite FM.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma,
consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.